Le thème aujourd'hui, c'est celui de la transformation. Une vie transformée, on a entendu des témoignages. Est-ce que vous croyez vraiment au changement? Je reviens de Paris, où jeudi et vendredi, j'ai assisté à un moment historique en France. C'était la création du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. C'est pour la première fois, les évangéliques se sont réunis pour former une union d'église. C'était du jamais vu auparavant. Parce que nous, les évangéliques, nous sommes connus pour faire le contraire de nous unir. Chacun a sa chapelle, à sa façon, à sa tête, n'est-ce pas? Et au-delà, nous tous, bien sûr, tous unis dans le Seigneur. Quand je suis rentré dans la salle, au centre de congrès à Montreuil, c'était un délire. 800 pasteurs, 800 pasteurs irresponsables d'église réunis dans un seul lieu pour adorer le Seigneur et dire « Désormais, on va œuvrer ensemble et marcher ensemble pour le bien et pour l'honneur de notre Seigneur et notre témoignage en tant que chrétien. » Ça, il faut faire. Et à Nantes, je me réjouis des relations qui existent depuis longtemps déjà. Et c'est une joie de fermer l'église de chez nous pour venir ici pour faire un culte en commun. Donc, le thème « Transformé par la victoire de notre Seigneur Jésus », c'est le thème que je n'ai pas choisi moi-même, mais c'est le thème de cette année que la Semaine universelle de prière a choisi, donc les évangéliques, car nous voulons parler que notre vie a été transformée. Il y avait quelque chose avant un moment donné et après un moment donné. Et ce moment qui a tout basculé, qui a tout changé, c'était une rencontre. Une rencontre puissante avec une personne. C'est une rencontre avec Jésus-Christ. Et cette rencontre ne nous a pas laissé indifférents. Si c'était avant nous qui avons mené notre vie à notre façon, depuis que nous voulons déclarer que Jésus-Christ qui règne. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà le texte que je tire de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 58. Je vous les lis et vous pouvez les suivre sur l'écran selon la traduction de la Bible de Sumer. Voici, je vais vous révéler un mystère. Donc attention, mystère, c'est toujours secret. Maintenant, vous pouvez apprendre quelque chose. Voici, je vais vous révéler un mystère, dit l'apôtre Paul. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptible, tandis que nous, nous serons changés. Et le mot voudrait dire transformés, changés, transformés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Ça vous dit ce changement? Donc, écoutez la suite. Lorsque le corps corruptible aura revêti l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se retrouva réaliser cette parole de l'Écriture. La victoire totale a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Transformez par la victoire de notre Seigneur. Mon premier point est intitulé « Le mystère de la transformation. S'il y a changement, on peut toujours se demander, et comment ça se passe? On a souvent tant d'envie de changer de vie, de façon de vivre, mais on est dans l'incapacité de pouvoir le faire. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui nous sommes le 29 janvier, n'est-ce pas? Ok. Donc les bonnes résolutions du 1er, je ne sais pas combien longtemps elles ont duré chez vous. Moi, j'en ai eu aussi pendant 3 jours. Et finalement, je suis retombé dans les anciennes habitudes. Bon, ça ne vous arrive pas. Mais à moi, oui. Je t'en veux changer. Et pourtant, il me manque la force en moi de pouvoir le faire. Heureusement, il y a une puissance en dehors de moi, au-dessus de moi, qui voudrait rentrer en dedans de moi pour transformer et changer ma vie. Dans le Nouveau Testament, un mystère désigne une vérité que l'homme ne peut pas connaître. En tout cas pas par ses propres moyens. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, c'est l'apôtre Paul qui écrit « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable. Il est incapable de comprendre, car c'est seul l'Esprit de Dieu qui permet d'en juger. » Quel révèle donc ce mystère mystérieux? Il révèle qu'il existe une clé, une vérité, une porte qui nous ouvre une compréhension d'une importante vérité de ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Une porte qui nous emmène à une action de Dieu. Et tous ceux qui veulent ouvrir à Dieu cette porte, qu'est leur vie, leur cœur, leur âme, vont découvrir que cette parole va se réaliser tel que Dieu l'a promis, grâce à la venue de Jésus-Christ dans notre vie. Voici le mystère. L'homme qui n'est pas spirituel, qui n'a que lui-même pour vivre et pour décider, pour se débrouiller, pour s'arranger avec les situations de la vie, mais qui ne peut rien en changer lui-même, mais il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas faire cette expérience par lui-même. On ne peut pas essayer d'étendre une expérience. Si le cœur ne s'est pas ouvert, si on ne se livre pas nous-mêmes entièrement en demandant à ce que Dieu le fasse dans notre vie. L'homme qui n'est pas spirituel ne peut pas faire cette expérience. Tant pis, dommage, dirait l'un ou l'autre. Et celui qui voudrait tant changer et n'arrive pas à changer, il va commencer à se poser la question, donc je resterai la personne que je suis pour toujours. Je resterai la personne que je suis devenue par la vie et par ce que la vie m'a fait. Je resterai dans l'état où je suis pour toujours. C'est une forme de condamnation. Vous êtes d'accord? Personnellement, je souhaite à personne de résigner sur sa propre vie en disant « Mince, dans mon état perdu que je suis, je resterai perdu à jamais. » L'homme qui n'est pas spirituel ne peut pas être sauvé. Car pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord connaître ce changement que la Bible dit une transformation opérée par Dieu lui-même, par son esprit dans notre vie. Et pour cela, il faut naître. Vous êtes tous nés, hein? Je suppose, sinon vous ne serez pas présents. Hein? Mais il faut naître d'une certaine manière. D'une manière dont on est une seule fois. Il faut naître de l'Esprit de Dieu. Il faut l'être de l'Esprit de Dieu, tel que Jésus l'explique à un certain Nicodème qui se pose la question aussi intelligent qu'il est en tant que pharisien et intellectuel. Mais comment je puisse recommencer dans ma vie? Il n'arrive pas à comprendre. Et Jésus dit, mais passe par une naissance. Mais Jésus, je suis déjà passé par une naissance. Est-ce que je dois revenir dans le ventre de ma mère? Déjà, regardez, hein, chez moi, j'en ai eu un. Et Jésus dit, non, c'est plus facile que ça. C'est plus facile que ça. Et en même temps, aussi plus compliqué. Il faut recevoir une naissance qui te vient d'en haut. Et cette naissance va t'apporter une vie que tu n'as jamais portée auparavant. Que tu as peut-être vue ailleurs. Que tu as peut-être dégustée par des rencontres que tu as faites avec tes chrétiens. En tout cas, si c'était des chrétiens encourageants. Mais il faut passer soi-même par cette naissance. Personne ne peut le faire à ta place. Tous ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ sont passés par cette véritable naissance de l'Esprit de Dieu. Ils peuvent témoigner d'un moment où ils ont confié leur vie à ce Dieu sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Et fidèle à la promesse de Dieu, il est rentré dans leur vie, a fait de leur corps un temple du Saint-Esprit, et petit à petit, un changement a commencé. J'en reviendrai tout à l'heure. Dès que nous croyons en Jésus, nous recevons cette nouvelle vie spirituelle et éternelle. Parce que cette vie, c'est mieux que le foot. Je ne suis pas très foot, moi. Mais certains matchs se terminent à l'égalité. Et pourtant, il faut un vainqueur, n'est-ce pas? Donc le match rentre dans une prolongation. Le thème est exact. Voilà, 2 fois 15 minutes. Après, c'est fini. La vie spirituelle ne connaîtra pas une prolongation de 2 fois 15 minutes. C'est beaucoup de fois 15 minutes multipliées à l'éternité. Et tu rentres, non pas seulement dans cette vie spirituelle, ici-bas et maintenant, dès que tu confies ta vie au Seigneur, tu vas la partager à vie, à la vie éternelle. Mais nous n'obtiendrons pas cette vie qui nous transforme et qui nous permet qu'au moment où Jésus-Christ reviendra, nous serons transformés avec lui pour rentrer dans le royaume des cieux. Que notre corps doit déjà se transformer avant Jésus-Christ revienne. Comment cette transformation se passe? Certaines personnes me disent, « Oh, tu sais, Olaf, ma décision par rapport à Jésus, je le reporterai à plus tard. » Certains me disent, « Ah, au plus tard possible. » Pour pouvoir vivre sa propre vie aussi longtemps que possible. Sauf que les pauvres gars, ils ne connaissent pas la date de leur départ. Notre vie devrait commencer à se transformer tel que nous l'avons entendu dans les deux témoignages. La transformation par l'Esprit commence ici et maintenant. Dès que ta vie appartient à Jésus, attends-toi à un changement. Parfois radical. Que parfois, toi-même, tu ne vas plus te reconnaître. Sauf au miroir, ça, tu ne changes pas. Quoique. Mais d'autres ne vont plus te reconnaître. On a entendu là les témoignages sur sa langue, hein, qu'on surveille son discours. D'ailleurs, nous, les hommes, par rapport aux femmes qui nous plaisent, les femmes, pour vos raisons à vous, je ne suis pas une femme, donc vous connaissez mieux cela. Être transformé. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit, mais comme quelque chose qui nous est donné pour attendre un héritage encore plus beau pour plus tard. La Bible nomme ça, nous avons reçu le Saint-Esprit comme un ares. comme un acompte. Mais un acompte, je dirais, en tout cas ce qui me concerne, qui est déjà tellement généreusement donné que je me demande, mais comment va être l'héritage? Certaines personnes se sont tellement peu ouvertes à l'Esprit de Dieu qu'ils disent, mais si c'est déjà l'avant-héritage, l'héritage ne peut pas être très fameux parce que ce que j'ai reçu, c'est homéopathique, c'est tout petit. Là, tu as commis une erreur, hein? La porte n'est pas suffisamment ouverte pour rentrer tout ce que le Saint-Esprit voudrait déjà te donner ici-bas, pendant que tu vives ici-bas sur terre. Pour l'éternité, tu auras plein les yeux. Pour toujours d'ailleurs. Voilà le mystère. Il n'y a pas de secret d'ailleurs pour ceux qui sont nés du Christ, ceux qui sont nés de l'Esprit Saint de Dieu. Donc, je voudrais vous poser cette question. De quelle manière démontrez-vous la réalité de cette transformation spirituelle, celle qui a commencé à opérer le Christ, a commencé à opérer le Saint-Esprit dans votre vie? Comment cette réalité, vous la vivez? Vous la vivez? Déjà? Vous avez commencé à la vivre? Le deuxième point, nous serons transformés grâce à la victoire sur le mal. Vous vous rappelez encore ce qui est ce mystère qui désigne une vérité de ce que l'homme ne peut pas connaître par ses propres moyens, mais qui lui est révélé par la parole prophétique. L'espérance chrétienne, car j'ai une espérance chrétienne face à la mort. La mort qui est pour certains la fin de toute chose. Pour certains, je leur souhaite, voyons leur vie, que la mort soit vraiment la dernière des choses. Qu'il n'y ait pas de jugement après, pas de vie éternelle après. Parce qu'il serait très mal. Pourtant, la parole dit que détrompe-toi, la mort n'est qu'une porte. D'ailleurs, la dernière que tu prends de ton vivant, et qu'on prend une seule fois simplement. Cette espérance chrétienne face à la mort ne repose pas justement à ce que l'homme espère de ce que soit la mort et l'après-mort. L'espérance chrétienne se confie à l'œuvre et la promesse du Saint-Esprit, la parole de Dieu, que la transformation qui a commencé dans notre vie, ici-bas et maintenant, va connaître son accomplissement à la vie éternelle. Ma femme m'a dit, le Seigneur sera probablement en sueur ce moment-là quand tu arrives au ciel. Parce que tout ce qui te manquera pour l'accomplissement, il y a des choses à faire encore. Elle doit le savoir. Donc la victoire nous est donnée dans le Seigneur Jésus-Christ, dit le verset 57. C'est pour vaincre la mort, il faut d'abord vaincre ce qui nous empêche de rentrer dans le royaume des cieux. Il faut vaincre le péché. Il faut vaincre le mal. Vous pouvez le faire, vous? Qui a déjà essayé? Qui est vainqueur du mal? De temps à autre, à un certain degré. Mais encore une fois, nous ne trouvons pas cette force en nous, humains que nous sommes. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. L'adversaire est redoutable. Plus fort que nous. Je me rappelle un slogan publicitaire pour des jeux d'ordinateur. Donc j'avoue que j'en joue. Désolé, j'aurais pas dû le dire peut-être, mais bon, maintenant c'est enregistré. Il y a une marque de jeux d'ordinateur qui s'appelle Sega. Est-ce que quelqu'un connaît le slogan publicitaire de Sega? Exact. Sega est plus fort que toi. C'est pas tout à fait vrai. Quoique, le péché dans ma vie est tellement fort que très souvent je dois m'incliner et je suis perdant. Mais ce qui est génial, c'est que la victoire qui était remportée sur la croix de Golgotha a anéanti la puissance qu'avait le diable sur notre vie. Et même s'il se prend pour un tout-puissant, il n'est pas un tout-puissant, mais il est vachement puissant, n'est-ce pas? Il doit reconnaître que désormais, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et que par son histoire, sa victoire, nous vivons. Donc, le pardon de nos péchés fait de nous des hommes et des femmes délivrés du péché et rendus libres. Mais libres pour quoi faire ? Pour choisir. Pour choisir. Choisir une autre façon de vivre d'une manière changée, transformée. Tu crois ça tombe du ciel ? Oui. Mais ça doit tomber plus bas dans ton cœur. Et sur ton cœur, toi seul qui décides. Tu es d'accord? Sur ton cœur, tu seul, tu en décides. Donc vivre la victoire, c'est donner dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le défi de notre vie chrétienne de démontrer qu'il y a vraiment eu un changement qui perdure. Jésus peut changer ta vie. Et l'autre dit, ah tiens, il a commencé déjà chez toi? Et tu dis, mais oui! Et l'autre dit, et ça se voit comment? Peut-être avant d'ouvrir la bouche pour un témoignage, il faut laisser le Saint-Esprit effectivement la place pour transformer notre vie, pour que nous puissions pouvoir donner un témoignage de ce qui a changé dans notre vie. Parce que des paroles, bientôt nous rentrons dans une élection présidentielle, des paroles, vous savez, des promesses, on aura pour plein les oreilles. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 12, verset 17, suivant, « Ne répondez jamais le mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Ayant autant que possible, ça me plaît, cette formule, oh, qu'est-ce que cette formule me plaît? Autant que possible. La deuxième, pas mal non plus. Et dans la mesure que cela dépend de vous. Vivez dans la paix avec tous les hommes, parce que ce n'est pas donné. Mais je voudrais attirer votre attention sur la fin. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. La chance que nous avons face à l'adversaire, c'est que nous vivons dans une transformation à laquelle il ne s'est pas attendu, à la puissance de Jésus dans notre vie. Il aurait bien voulu rester maître de notre vie. Il a dû laisser la place. Il déteste ça. Mais pour répondre au mal, pour vivre d'une manière transformée et changée par l'Esprit, mais il faut avoir des moyens, il faut se donner des moyens. Il faut donner des moyens à Dieu sur notre vie. Être transformé, être changé. En Romains 8, verset 37, le Saint-Esprit nous est même laissé d'un terme taillé à notre mesure. L'apôtre Paul dit que nous sommes, de par la grâce du Seigneur, des bien plus que vainqueurs. Déjà vainqueur, c'est déjà pas mal. Être plus que vainqueur, c'est déjà super chouette. Mais on peut littéralement traduire ce même mot. Nous serons des hyper vainqueurs. Et être hyper vainqueur, ah, ça ne dépend pas de nous. Hein. Ça demande une autre puissance dans notre vie et sur notre vie que la Bible appelle la transformation par le Saint-Esprit. Mais cette glorieuse expression d'être des hyper-vainqueurs ne doit pas nous faire oublier que notre association à la victoire du Christ ne nous dispense pas de nous impliquer personnellement. Tu auras la vie spirituelle que tu as demandée. Tu auras la vie spirituelle que tu auras permis à Dieu. Le reste, c'est qu'illusion et pur rêve. Nous devons nous impliquer personnellement pour être transformés. Prions que, par la grâce de Dieu, nous soyons transformés quotidiennement, pas seulement le premier de chaque année, hein, quotidiennement. À quoi nous devons être ressemblés? Prions à ce que nous soyons transformés à l'image du Christ, que les autres découvrent dans notre vie et à travers notre vie l'image de Jésus. Prions, Seigneur, donne-moi par la foi de bloquer la source, tout mauvais sentiment qui pourrait m'assaillir et me conduire au mal. Seigneur, fais de moi un véritable vainqueur dans l'esprit de ta parole. Et pour terminer, donc Olivier m'a dit que j'aurais pour à peu près 2 heures. Non, la vérité si je mens. Nous serons transformés par l'action du Saint-Esprit. Voilà ce qui écrit l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, un de mes versets préférés. J'aime bien d'autres, mais ces versets me parlent beaucoup. Je vous invite donc, frères, et je me permets d'ajouter vous, les sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par ce monde actuel, mais laissez-vous être transformé. Mais par quoi ? Par le renouvellement de notre façon de penser. Ça commence à l'intérieur et ça se traduit à l'extérieur. N'attendez pas dans votre vie ce qui n'est pas commencé à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre âme. Que je sache enfin, selon ce qui est bon et agréable à Dieu, il me faut donc un véritable changement dans mon comportement et un véritable changement dans mes pensées. D'ailleurs, le verbe grec « métamorpho hein, », vous connaissez ce que le français en a fait, peut être traduit de deux manières. Ouais, ça existe dans la Bible. Certains mots en grec ou en hébreu permettent deux traductions, d'ailleurs qui disent à peu près la même chose. D'abord, une forme passive. Soyez transformé. Ah là, tu dis, ah, superbe Seigneur, c'est toi qui le feras. Et tu attends. Et tu attends. Et une forme active. Transformez-vous. Attends, je croyais que c'était toi qui fais ça sur moi. Moi, je dois aussi avoir une part dans tout ça. Ah, je ne savais pas. Ah non, à la fin, ça va me coûter. Non. Ah oui. Mais oui, le mystère de la transformation est exactement cette coopération entre ce que Dieu fera sur ta vie et ce que tu lui permets de faire. Cette transformation commence par une nouvelle naissance, donc, et se poursuit. D'une manière continue. Tu crois que pour une fois c'est réglé ? Détrompe-toi. C'est pour tous les jours. Et probablement pour longtemps encore. D'une manière continue tout au long de ta vie. Est-ce que tu voudrais avoir cette persévérance dans ta vie ? Est-ce que tu voudrais toujours t'attendre que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi ? D'ailleurs, quelle glorieuse découverte que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Vous avez certainement saisi en quoi résiste donc ce mystère, ce bien mystérieux, mystère pour certains. Ils résistent dans une transformation profonde de notre vie et de la personne que je suis. Encore une fois, l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ, les amis, ça c'est une condition, sinon ce n'est pas possible. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé. Où dit le texte, est en train de disparaître. Et voici ce qui est nouveau, c'est déjà là. Où dit le texte, c'est en train de venir constamment sur toi. Vous voyez, nous sommes dans un processus. Ça, je ne voudrais plus vivre. Mais ça, je voudrais vivre davantage. Et entre cela, je suis homme qui demande être transformé. Ta vie, aujourd'hui, aurait-elle besoin aussi une transformation? Voilà, tu connais le mystère et tu connais désormais la réponse. Que Dieu te bénisse. Prions.